Salut Armé, là j'ai un coup de gueule à lancer là aujourd'hui, je suis un petit peu dégoûté. Étant moi-même d'origine marocaine, je suis assez surpris des actes de barbarie et des tueries qui s'organisent en Corse. Et là aujourd'hui, je viens d'entendre sur l'édition de France Inter avant dans l'émission qu'un pompiste honnête et sans histoire vient de se faire flinguer par un type en motard, ce qui ressemble plus à des choses crapuleuses et de la mafia locale. Moi, ce qui est arrivé là, ce pompiste, je le rapproche carrément à la grève qui est menée par la SNCM, par, tu sais, les bateaux qui font la traversée entre le continent et la Corse. Je crois que les Corses veulent une reprise économique complète de leur île et une autarcie complète, et ils tentent par tous les moyens de se débarrasser de ceux qui les dérangent, notamment les travailleurs marocains qui sont exploités depuis au moins une cinquantaine d'années en Corse, qui ramassent des fruits et légumes et qui ont enrichi tout le monde. Salut Mermet, ciao.
Oui, bonjour, c'est Raymond des Pyrénées-Orientales. Je dis tout d'abord bravo, là, je suis en train d'écouter ce vendredi les auditeurs. Il y a un monsieur qui est passé qui a parlé de la Constitution européenne et de l'ultralibéralisme de cette Constitution. Il a parfaitement raison, cette Constitution est très dangereuse et remet, elle est encore pire que la précédente, donc il faudrait en parler beaucoup et informer les citoyens du danger. Alors les socialistes ont demandé à ce qu'on donne un oui, mais c'est encore une trahison, une nouvelle trahison des socialistes. Et hélas, combien vont se encore se laisser avoir. Alors d'autre part, concernant le coût de la guerre de l'Irak, alors moi je vais te répéter tous les jours que l'État français emprunte aux banquiers, à des banques privées maintenant, puisque l'État n'a plus le droit de battre monnaie. Donc elle emprunte aux banques privées et que l'État français doit verser tous les jours, les intérêts de cet argent. Ça représente 8300 francs par seconde. Donc toutes les secondes, nous donnons aux banquiers 8300 francs. Alors faut calculer ce que ça fait dans l'année. C'est encore une somme astronomique qui pourrait servir à améliorer la vie de certains Français qui sont pas très riches, qui sont au RMI ou qui ont pas de boulot. Salut Mermet et bon voyage et bon séjour en Amérique.
Oui, salut tout le monde, Alain de Paris. Je laisse un petit message parce que j'ai appris le décès de Samira Bellil, qui est cette fille qui avait écrit un bouquin qui s'appelait Dans l'enfer des tournantes, qu'on voyait de temps en temps à la téloche, qu'on entendait à la radio, qui a été à l'initiative, une des personnes à l'initiative du mouvement Ni pute ni soumise, et donc qu'on avait pas mal bavé quelques années, qui avait été violée, etc., et qui avait fait ce livre. Je me souviens d'un débat intéressant sur le féminisme sur Arte, où elle était là, et puis je l'ai vu dans quelques émissions. Elle est morte, j'ai lu ça, d'un cancer de l'estomac le 7 septembre, et ça m'a beaucoup touché. Voilà, donc je pense à elle, et puis aux gens qui restent et qui l'aimaient, voilà. Et puis autre chose, évidemment, je plains ce pauvre Parti Socialiste et François Hollande empêtré dans le oui libéral à une Europe libérale. Voilà, et qui dit à propos de Schröder et Blair, je fais avec ce que j'ai. Bah oui, c'est bien triste lorsqu'on a décidé de plus résister. Enfin, cette fille Samira, ben voilà, elle résistait et puis voilà, je l'embrasse, je vous embrasse. Salut.
Salut Daniel. Alors, avec l'argent de la guerre en Irak, on peut s'offrir pendant 1500 ans chaque jour la tour d'argent à 3000 balles par repas. Ou alors, si on a des goûts plus modestes, on peut s'offrir pendant 15 000 ans un couscous chaque jour à 400 balles avec alcool de figue et vin, bien entendu. Voilà, je t'embrasse, c'était Camille de Neuilly. Au revoir.
Des messages sur le répondeur de l'impasse où j'y suis, des messages que j'écoute ici à Washington, où nous sommes toujours en reportage, et où nous nous posons beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations. Par exemple, l'homosexualité. Eh bien, l'homosexualité, c'est pas bien. L'avortement, par exemple. Eh bien, l'avortement, c'est pas bien non plus. Par contre, la peine de mort, oui. La prière à l'école, oui. La famille, oui. La libre entreprise, oui. Oui, oui, oui. Voilà ce ce que nous avons appris hier matin, dimanche, à la McLean Church, McLean Bible Church, c'est près d'ici, c'est en Virginie, et chaque dimanche, 10 000 fidèles se précipitent aux offices de la McLean Bible Church. Il y a un parking de 3 000 places, c'est un des supermarchés de la foi, c'est une des méga churches, comme il y en a beaucoup dans le sud des États-Unis, dans ce qu'on appelle la Bible Belt, la ceinture de la Bible. Et la McLean Bible Church, eh ben, ça marche très bien, 200 employés et des milliers de bénévoles, et des milliers de bénévoles, avec un chiffre d'affaires hebdomadaire qui tourne autour de 350 000 dollars. C'est une affaire qui marche et qui, bien sûr, même si on n'y fait pas de politique, roule pour le camarade W. Dubia Bush. Alors, on nous a dit, ne faites pas de caricature, s'il vous plaît, ne faites pas de caricature, c'est l'angoisse un peu des amis que nous rencontrons ici, ils ont bien raison. Et c'est vrai qu'il y a des contrepoisons, il y a des contrefeux. Par exemple, Jim Hightower. Jim Hightower, on l'a rencontré hier dans un festival écolo, ici à Washington, et c'est un type formidable, drôle, très caustique, qui s'oppose évidemment à tout ça, et qui est l'auteur d'un bouquin traduit en français. Là, vous pouvez tout de suite vous précipiter sur ce bouquin, qui s'appelle « Ces truands qui nous gouvernent ». C'est de chez un petit éditeur français qui s'appelle Édition du Croquant. Et voilà, Jim Hightower, « Ces truands qui nous gouvernent », en attendant qu'on revienne. Et puis, une autre qu'on a rencontrée, c'est Amy Goodman. Et c'est extraordinaire, parce qu'il y a quelques jours, si vous écoutez fidèlement les messages de là-bas, si j'y suis, il y a une auditrice qui nous écoute depuis San Francisco et qui nous a laissé un message en disant « Écoutez Amy Goodman ». Eh ben voilà, on l'a rencontrée, Amy Goodman. Elle a une émission de radio quotidienne qui a beaucoup d'écho, et une des émissions de télé aussi, et un site qui s'appelle Democracy Now. Democracy Now. Et elle fait partie des contrepoisons, elle fait partie de ceux qui sont non-embedded, c'est-à-dire le journalisme non-embedded. Si vous vous souvenez des embedded, c'est-à-dire ces journalistes et reporters qui étaient au fond des chars lors de l'offensive en Irak. Voilà. D'autres nouvelles, eh bien, à 10h15, il est 10h15 ici à Washington, la cagnotte, le montant de la cagnotte, c'est-à-dire le montant du coût de la guerre en Irak depuis le début tel qu'il apparaît sur ce panneau lumineux situé au centre de New York, est de 139 milliards, 134 millions, 430 000 dollars. Alors le jeu est toujours, quotidiennement, dites-nous ce qu'on pourrait faire avec cet argent. Pourrait-on remonter Enron, par exemple? En mars 2002, nous avons fait un reportage à Houston, Texas, sur cette affaire, cette faillite, la plus grosse faillite frauduleuse du siècle. C'était, enfin du siècle, du 20e siècle, hein. C'était donc à Houston, et on va revenir aujourd'hui, si vous voulez bien, sur cette émission, sur ces reportages, qui est très très long sur cette Amérique et sur ce qui se passe aujourd'hui dans cette Amérique-là, qui est reprise par la politique. C'est une passion politique, surtout dans les swing states, c'est-à-dire les États dont on ne sait pas s'ils vont voter bleu ou rouge. Donc c'est le cas de la Virginie occidentale où nous sommes, et c'est ça qui nous passionne. Mais il y a une passion politique qui a repris ici aux États-Unis, alors que chez nous, ça roupille un petit peu. Donc, Enron aujourd'hui. Auparavant, d'autres messages sur le répondeur de là-bas, si j'y suis, 01-56-40-37-37, sur l'émission de vendredi, qui était sur les alcooliers et ceux qui nous poussent à picoler.
Oui, salut Daniel, c'est Frédéric de Saint-Étienne, je suis dans la voiture là, et j'écoute le lobby de l'alcool. Et ben c'est vrai, en plus ça nous est arrivé cet été, sur la plage, il y a eu Force 4 qui a fait une animation, et ils ont distribué du Force 4 à tire-larigot, et ils ont même pas fait attention à qui distribuer ça. Moi, mes gamins de 7, 8 et 12 ans, et ben ils sont revenus avec des canettes et des canettes et des canettes. Alors c'est vrai qu'après on pouvait pas leur interdire d'en boire, on a fait goûter, au moins ils auraient pu distribuer du panaché sans alcool, ça existe, mais même pas, bon il y a 4,5 et bon c'est un peu scandaleux. Bon c'est vrai qu'on profite du système, on était bien content d'avoir du panache gratuit, à côté de ça, et ben il a fallu faire goûter aux enfants parce qu'on pouvait pas leur interdire. Et voilà, et on est tombé dans le panneau. Ciao.
Vous pouvez trouver toute la propagande que vous voulez contre la consommation d'alcool et de drogue auprès des jeunes, mais vous ne trouverez jamais de propagande contre l'achat de voitures auprès des jeunes. Au contraire, on fait tout pour que les jeunes s'intègrent, achètent une voiture, et si les jeunes ont des accidents de voiture, c'est pas parce qu'ils ont consommé quoi que ce soit, c'est parce qu'ils ont une voiture. Voilà, point à la ligne. C'était Philippe de Bruxelles. Ciao.
Bonjour, c'est Annie de Toulouse. Pour Serge, mort. Pour Martine, Patrick, René, mort de leur alcool. Pour les malades alcooliques que j'accompagne. Pour mes copains Jean-Claude, Pierre, Jean, Christiane de Villibre qui depuis si longtemps viennent témoigner de leur parcours en alcoolie, pays de souffrance. Pour les 45 000 morts par an. Trois canicules qui laissent les politiques indifférents et les alcooliers arrogants. Je vous dis merci d'avoir parlé hier soir de cette foutue maladie qu'est la dépendance alcoolique, dont beaucoup de médecins ignorent le processus, car enfin qu'on étudie les alcoolopathies, mais peu le processus de construction de cette maladie biopsychosociale. Nous sommes tous des consommateurs d'une drogue dure qui tue chez nous en France beaucoup plus que toutes les autres drogues.
Allô, c'est Lionel sur la route, je vous appelle. J'ai une idée pour Bush, on devrait tous surveiller un bretzel. Peut-être que c'est une arme de destruction massive.
Salut, c'est Daniel Mermet avec Cécile Besson, là-bas, si j'y suis. God bless America.
Flight number 2, arriving from...
On est dans une des villes les plus caricaturales du Texas, dans le centre-ville de Houston, et on est au pied des deux tours Enron. 5000 personnes sont au tapis, ont été virées en un quart d'heure, ils ont appris qu'ils étaient dehors, et aujourd'hui plus personne. Et c'est superbe, c'est une architecture absolument superbe, de verre, de lumière qui se reflète. Il y a ce cercle-là, qui est au-dessus de la rue et qui permet de se déplacer d'un building à l'autre. C'est vraiment, on est dans le rêve ultra-libéral. On est dans le rêve de ces années récentes, des années fric, des années faciles, des années où il suffit de jouer son argent pour en gagner beaucoup. La course est perdue au fric. Ce rêve-là, tout d'un coup, pour certains, a pris fin, mais brusquement, ils se sont réveillés. Alors, il y a quand même encore la joie qui se bat, par exemple, avec son attaché case, une espèce de caricature de cadre de Shenron qui se bat comme ça dans cette avenue très très large. Et puis un couple quand même qui s'est arrêté, qui vient regarder le sigle Enron. Il y a écrit Enron, cette espèce de E couché là, qui est devenu le symbole de cette énorme faillite frauduleuse. Quelqu'un nous a dit, c'est ils sont plus voleurs que Al Capone, bien plus voleurs que Al Capone. Et voilà, c'est tout, et c'est fini. Alors tout autour, il y a des buildings analogues, des immeubles, des sociétés tout à fait comparables à Enron. Combien de temps encore avant le naufrage?
Enron's tale of boom to bust has already affected virtually every aspect of this city. Dozens of small businesses and organizations have felt the economic impact, which is why so many here are hoping Enron can still be saved. Maureen Maher, CBS News, Houston.
Imaginez un dîner dansant du country club avec un groupe de vieux canassons tournoyant avec leurs épouses sur un air de Guy Lombardo interprété par un orchestre en tenue de smoking, et soudain le jeune Elvis fait une entrée fracassante avec un costume en lamé or, une guitare rutilante et des hanches virevoltantes. Une moitié des valseurs s'évanouissent, une autre moitié ou presque s'indigne, mais quelques-uns se mettent à aimer ce qu'ils entendent. Ils découvrent que leur pied bat la mesure, commencent à enlacer d'autres partenaires de danse et soudain se lancent dans une gigue bien différente. Eh bien, dans l'univers réglementé des entreprises énergétiques, Enron est Elvis. Et oui, voilà quelques lignes
relevé par un certain Tom Frank dans le très prestigieux magazine Fortune, qui fait la pluie et le beau temps dans le milieu des affaires aux États-Unis. C'était en avril 2000. Depuis 6 ans, le magazine Fortune plaçait Enron comme l'entreprise la plus innovante. Enron a été pour les États-Unis, mais pour le monde entier, le modèle. Pas seulement une réussite, pas seulement l'argent, mais le modèle à suivre. Quelque chose de révolutionnaire pour les gourous du management. Enron constituait une opération quasiment sainte. Le petit fabricant d'oléoduc devenu grand et ambitieux achetait, vendait, proposait son énergie au pays tout entier. Le siège d'Enron, c'est à Houston, c'est au Texas, et c'est là où nous sommes avec Cécile Besson. Pourquoi ? Parce que c'est pas facile de raconter le capitalisme, la spéculation. Tout ça, c'est virtuel, c'est abstrait, c'est des chiffres, c'est une langue à laquelle nous ne comprenons rien. Mais cette fois-ci, c'est tellement énorme, la plus grande faillite de l'histoire des États-Unis, et les dégâts sont tels, 4500 salariés, vous allez les entendre, qui ont été virés, mis à pied, on peut pas dire licenciés, parce qu'ils n'ont touché aucune indemnité de licenciement. Il y a un visage, enfin, un visage humain sur cette spéculation délirante. Quelqu'un disait que George Bush était une multinationale qui s'était fait pour les élections pour être élu un visage humain. Eh bien, voilà le visage humain de cette affaire. L'affaire Enron-Anderson, puisqu'il faut mettre maintenant Anderson avec Enron, et c'est bien lentement que cette situation, ce scandale, cette faillite frauduleuse a été portée à la connaissance de l'opinion américaine et mondiale. Alors, il y a trois façons de réagir à cette affaire. Il y a celle qui dit, comme ça a été le cas de Lawrence Lindsay, le conseiller de Bush, du président Bush pour les affaires économiques, il a dit la faillite d'Enron est, je cite, un hommage au fonctionnement du capitalisme américain. Et vous pouvez très bien penser ça, vous dites, bah oui, ça fait partie, c'est le jeu, ça fait partie des risques. Très bien. Deuxième catégorie, vous vous dites, ah non, c'est pas possible, il faut réformer, il faut modifier, il faut réglementer. Et puis, il y a ceux qui pensent que ce système est tout à fait inhumain, brutal, et qu'il faudrait bien qu'un autre monde, en effet, fût possible.
Restore your sexual vitality with Maximus. Call now.
It was like one big, large family.
C'était comme une grande famille.
Est-ce que tu as encore des actions, Enron?
They are eliminated. I still have.
Oui, j'en ai encore, mais ça a été complètement éliminé. Ça vaut plus rien. Moi, j'avais des actions. À un moment, ça valait 60 000 $, et puis maintenant, ça vaut zéro.
We had 1 hour to leave. We were told to take our personal stuff. And that if we didn't grab it all, they'll pack it up and send it to us.
Ils nous ont dit qu'on avait une heure pour partir, une heure pour récupérer toutes nos affaires personnelles, et que ce qu'on n'aurait pas réussi à emmener avec nous, ils nous l'empaqueteraient et nous l'enverraient chez nous.
There's a saying around here. We were treated like a herd of cattle.
Il y a une expression ici, c'est de dire on a été vraiment traité comme un troupeau.
On vous a pris pour un troupeau de bétail.
Mm-hmm.
Mais c'est le Texas ici. Ce sont des cow-boys.
On dit les Américains, oui, leur cynisme, leur monde commercial, leur course à la vente. La question à se poser, c'est que tous les individus de la planète veulent un toit sur leur tête, des vêtements chauds quand il fait froid, de la nourriture, des soins, des écoles. aucun système n'a réussi à le donner, si ce n'est ce système commercial, capitaliste, matérialiste, égoïste, cynique.
Help make a difference. One penny, one nickel, one dime. That's all it takes, folks.
Ce qui est extraordinaire avec l'affaire Enron, c'est qu'elle n'a rien d'extraordinaire. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire d'Enron? Eh bien, c'est la 7e entreprise américaine, je le disais tout à l'heure, qui a été désignée 6 années de suite comme la société la plus innovante. Et l'action Enron était montée jusqu'à $90 en 2000, et aujourd'hui, elle vaut à peine 25 cents, et sinon qu'elle n'est plus du tout cotée en bourse. Alors, parmi toutes les escroqueries, les formes d'escroqueries utilisées, parfois même inventées par Enron, il y a le coup de Ken Lay, l'ancien PDG, qui a réussi à vendre des actions à un prix oscillant entre 31 et 86 dollars l'action, c'est-à-dire qu'il s'est ramassé 100 millions de dollars, et alors même qu'il était impossible aux employés qui avaient des parts dans l'entreprise de vendre, ça leur était rendu impossible. Si bien que il y a une trentaine, 29 hauts dirigeants d'Enron qui, au moment où il était impossible aux petits actionnaires de vendre leurs actions, eh bien eux, ils ont vendu les leurs et ils se sont partagés un petit milliard d'actions entre 1999 et 2001. Et pendant qu'ils vendaient leurs actions à bon prix, eh bien, ils continuaient d'encourager les employés à conserver leur foi dans l'entreprise et leurs actions, à soutenir l'entreprise contre les rumeurs malfaisantes, en achetant encore plus d'actions et en conseillant leurs familles et leurs amis d'acheter des actions Enron, et ceci jusqu'au dernier jour, jusqu'à l'annonce de la faillite. C'est une escroquerie extraordinaire, mais le mot important dans ces lignes-là, c'est le mot foi. La foi des salariés dans leur entreprise. Bien évidemment que cette gigantesque escroquerie n'a pu être possible que grâce à la collaboration des collaborateurs, à la foi qu'ils avaient dans leur entreprise. Et cette foi religieuse, vous allez l'entendre dans les témoignages que nous avons rapportés avec Cécile Besson, parmi les licenciés, on peut dire les cocus, les déçus, d'Enron. Ces gens qui, en quelques instants, minutes, ont tout perdu, ont perdu leur job, et c'était un job assez confortable, plutôt bien payé. On était très très enviés de travailler dans cette entreprise, même si c'était, vous allez voir, des conditions extrêmement dures, mais enfin on était quand même on donnait envie. Ils ont perdu leur salaire, ils ont perdu leur retraite, la plupart, puisqu'il s'agit de retraite à capitalisation indexé évidemment sur l'entreprise, et comme l'entreprise a coulé et les retraites ont coulé aussi, ils ont, et puis leurs économies, parce que la plupart avaient des économies placées en actions, en stock option dans l'entreprise, et là aussi ils ont perdu, ils ont absolument tout perdu. Ils sont 4500. Comment réagissent-ils? Quel est leur avenir? Comment voient-ils les choses? Voilà d'abord Orlando Puig, qu'on rencontre dans un grand resto très chaleureux à Houston, et qui est un petit bonhomme brun d'origine espagnole et qui est assez précis dans son dépit.
You okay, Bob?
Introducing the next utility, e-business on demand.
TGI Friday.
Merci mon Dieu, c'est vendredi.
Thank you God, it's Friday. Et c'est tout à fait cette ambiance aujourd'hui. C'est vendredi soir à Houston, un petit peu dans la banlieue de Houston. Et c'est une joyeuse soirée, un joyeux dîner. Et ce sont des célibataires catholiques qui se connaissent à travers leur paroisse. Et c'est de la convivialité. C'est des gens qui se connaissent comme ça et qui se réunissent. Et puis voilà, tout simplement. Et puis il y a Orlando. Alors Orlando, lui, il fait partie des déchets de Ron.
I worked there almost 4 years.
J'ai travaillé presque 4 ans.
And I was laid off in December.
J'ai été viré en décembre.
Quel âge vous avez, Orlando?
40s.
J'ai 40 ans.
And I worked as a commercial manager, developing power plants and then developing telecommunications business.
J'ai travaillé en tant que directeur commercial pour développer des entreprises de télécommunications et de commerce.
Alors, pourquoi vous êtes rentré chez Enron?
It was the high caliber company to go work for. It was indeed the Cadillac.
C'était un peu la Cadillac des entreprises. C'était là qu'il fallait aller travailler.
Pour l'argent ou pour la boîte?
Well, I'm in the low six digits. So.
C'était un salaire à six chiffres, mais dans le, en bas des six chiffres.
100,000.
Yeah.
OK. $100,000.
$100,000, ça fait 700 000 francs par an. C'est pas mal. Voilà pour l'argent. Maintenant, pour l'esprit de la boîte, qu'est-ce que cette boîte avait de si formidable?
At the time I joined them, they had a marvelous atmosphere. The culture was very energetic, very exciting.
Quand je suis allé, moi, la culture, l'ambiance était vraiment très, très positive, très énergique. C'était vraiment bien.
I started working wearing a suit and coat and tie. And my friends, the people that I work with, would joke and say, you know, you're not going to a bank here. You need to take off all the more comfortable.
Au début, je portais un costume cravate assez formel et mes amis, les autres employés se moquaient de moi. Ils me disaient, mais tu n'es pas une banque ici.
Et c'était très valorisant de travailler chez Enron.
It was a very high status job to have, I would think, in the Houston area.
Oui, dans la région de Houston, c'était vraiment bien vu de travailler à Enron et on faisait partie de la classe supérieure, tout à fait.
Et on a pu aller, en effet, dans les quartiers où habitent encore, mais pour combien de temps, les cadres d'Enron. Il y avait, cela dit, notre ami Orlando Puig, un bon salaire, quand même, $100,000, c'est pas mal. C'est pas tout le monde, mais les salaires étaient plutôt bons chez Enron, et effectivement, ça permettait d'habiter dans le rêve américain. Voilà, dans ces propriétés que vous voyez dans n'importe quel feuilleton, avec la pelouse devant, le garage, le double garage, le drapeau, évidemment. Obligatoire en ce moment, mais même en règle générale, les beaux enfants comme il faut, parfois il y a un petit panneau de basket, on joue au basket, on taille la pelouse, tout est bien, les rideaux sont bien, le petit coin cuisine est bien, la télé est grande, enfin, il y a une cheminée avec une impression de vrai feu, de voilà, et les gens sont très gentils, très très propres, bien peignés, souriants, c'est le dream américain, et un beau jour, beau, le mot est mal choisi. Orlando Puig a été viré.
After a turbulent year, America's looking for honest answers about the high-tech industry. Get to the bottom line as technology's most powerful leaders join Tom Brokaw for Silicon Summit 3. Sunday at 8 on MSNBC.
Silicon Summit 3 is sponsored in part by Lexus.
À partir de quand la situation s'est dégradée pour toi? Comment tu as été licencié?
Well, that was not for what is called performance. That is called restructuring. I was fired because the company was totally, I don't know, they've said the word exploded. It exploded.
Moi, j'ai pas été viré à cause d'une question de performance. Moi, c'est ce qu'on appelle une restructuration. On a dit qu'à ce moment-là, la compagnie était en pleine explosion.
They gave me a list on the day that I was laid off of about 250 other people that were laid off at the same time.
On m'a donné une liste le jour où je me suis fait renvoyer de personnes et il y avait 250 personnes sur cette liste qui étaient aussi virées en même temps que moi.
Tu t'y attendais?
I wasn't surprised because the company was making very poor decisions.
Non, ça m'étonnait pas parce que la compagnie prenait des très mauvaises décisions à ce moment-là.
I was sent an email and then I had to meet with somebody in personnel and that was it.
J'ai juste reçu un email. On m'a demandé d'aller voir telle personne aux ressources humaines et puis voilà, ça s'est juste passé comme ça.
I thought it was sort of strange that my boss, who I had just been with a few minutes before, did not feel it proper to talk to me and to say this is what is happening.
Ça m'a quand même semblé assez surprenant que mon patron, avec qui je venais juste de parler, mais 5 minutes plus tôt, n'avait même pas jugé bon de me dire ce qui allait se passer et m'envoyait juste un email.
But I felt very liberated when I received that because the company was so difficult at that point in time that I felt, well, this is fine. I have severance money coming to me and I no longer have this problem.
Mais en un sens, à ce moment-là, j'ai senti comme une libération parce que le climat était tellement mauvais dans l'entreprise que je me suis dit, bon, bah, au moins, voilà, je vais avoir de l'argent, je vais avoir des indemnités de licenciement et je vais partir d'ici.
Qu'est-ce que tu as eu comme indemnité de licenciement?
I got zero. they promised me 54,000.
Ils m'ont promis 54 000, mais j'ai rien eu. $54,000, mais j'ai rien eu.
Est-ce que tu as gardé tes droits à ta retraite ou t'en es de ce côté-là?
That is different. That was the 401k that lost about $80,000 in value.
Ça, c'est encore autre chose. Mon plan d'épargne retraite lié à l'entreprise, qu'on appelle ici un 401k, a perdu $80,000.
C'est-à-dire qu'en gros, tu n'as plus rien pour ta retraite.
No, I think there's about $2,200 left.
Non, j'ai encore $2,200.
God bless you all. God bless America.
Tu as une famille, tu as des enfants?
That is something I'm always grateful that I do not have right now, because I don't know how I would be able to live right now.
Non, en un sens, c'est quelque chose dont finalement je suis assez content en ce moment, parce que je vois pas comment je pourrais les faire vivre.
Est-ce que vous étiez au courant de la volonté en fait d'Enron, qui était de déréglementer le marché de l'énergie aux États-Unis?
Yes.
Oui, oui.
And I was supportive of the effort to deregulate the energy markets in this country.
Oui, c'est quelque chose que je soutenais. J'étais pour la déréglementation du marché de l'énergie dans ce pays.
Et vous êtes toujours pour?
Yes, because people, in order to facilitate conversation, people say the word deregulate. In truth, Enron nor any of the energy companies have ever looked for a deregulated environment. They want new regulations, different regulations.
Oui, parce qu'en fait, on dit un peu pour faire un raccourci de conversation, déréglementer le marché de l'énergie, mais il s'agit pas de ça. Il s'agissait, et c'est ce que je pense que c'est une bonne chose, de créer de nouvelles lois pour encadrer le marché de l'énergie.
Alors, qu'est-ce que tu fais maintenant?
I have very high doubts about the stability of any company now, but I continue to look for a job, and I'm also thinking of ways to start up a company.
Maintenant, je doute vraiment de la fiabilité des entreprises. Je ne vais pas me laisser avoir, mais je cherche quand même un nouveau travail. Et puis aussi, j'essaye de monter ma propre boîte.
Ah bon? Est-ce que tu avais des actions, Enron?
They are eliminated. I still have maybe $60,000-$70,000. They were valued at one time, but they're now $0.
Oui, j'en ai encore, mais ça a été complètement éliminé. Ça vaut plus rien. Moi, j'avais des actions. À un moment, ça valait $60,000, et puis maintenant, ça vaut zéro.
My boss, one of my bosses, received a bonus of $225,000. Another one received a bonus of $350,000. A boss that I had before that also received $225,000. The president of that division received $1.5 million. These are the same people that created the problem.
Un de mes anciens patrons a touché $225,000. Un autre de mes anciens patrons a touché $300,000. J'en connais même un qui a touché $500,000. Et ces gens-là, pourtant, c'est ceux qui avaient pris les mauvaises décisions, et c'est eux qui reçoivent ces primes-là. Nous, on n'a rien reçu.
And this is in addition to their normal salary.
Et ça vient en plus de leurs salaires normaux.
Comment vous pouvez accepter ça?
How can I accept that?
Oui, comment est-ce que je peux accepter un truc pareil?
It's not fate. These were decisions that were made by a board meeting at a big table like this table that you see here, and they made the decision to do that based on the fact that their attorney said you can do it, you can get away with that.
Non, mais c'est vraiment pas le destin, hein. c'est pas une fatalité, c'est des décisions qui ont été prises par un conseil d'administration à une table exactement comme celle à laquelle on était assis ce soir, et parce que ces gens-là, leurs avocats leur ont dit, eh ben vous allez pouvoir vous en tirer.
Tout simplement. Ce sont des escrocs, quoi. Tout simplement.
That's a good definition.
Avec votre argent, avec ton argent.
That's right. That's the money that should have been delivered to me and others at Enron that deserved it for our living expenses. These people have sufficient money with their normal income for them to meet their living expenses. We, on the other hand, are fighting day to day just to keep a roof over our head and to keep ourselves fed. And many of us have ailments, are sick, and need to go to doctors, and we don't have that money.
Oui, tout à fait, c'est notre argent, cet argent nous revenait à nous. Ces gens-là, ils ont absolument pas besoin de cet argent, ils ont déjà un revenu qui est très élevé, alors que nous, on a besoin d'avoir un toit au-dessus de nos têtes, on a besoin de manger, on a vraiment besoin de cet argent tous les jours, et il y a des gens qui sont malades, il y a des gens qui n'ont plus les moyens d'aller chez le docteur, donc oui, nous, on avait vraiment besoin de cet argent, pas eux.
Qu'est-ce qui va rester de cette histoire dans la mémoire des gens? Quelles leçons vont-ils tirer de ça? Est-ce que ça va être une crise de confiance
The great lesson is people will forget.
La grande leçon, c'est les gens vont oublier.
It's the historians who should record, but nobody reads their work until it's 100 years old.
C'est les historiens qui vont se souvenir de tout ça, mais le problème c'est qu'on ne lit jamais ce qu'ils ont écrit avant 100 ans. Running to and fro, hard working at the mill, never fail in the mail, yet come a rotten bill. Too much money to be there, too much money to be there, too much money to be there for me to be involved in. Salesman talking to me, trying to run me up a creek, say you can buy it, go and try it, you can pay me next week. Ah, too much money to be there. Too much monk business for me to be involved in. Blind hair, good looking, trying to get me hooked, want me to marry, get a home, settle down, write a book. Too much monk business, too much monk business, too much monk business for me to be involved in. Same thing every day, getting up, going to school, no need of me complaining, my objections overrule. I too much monk business. Too much monkey business. Too much monkey business for me to be involved. Something wrong, dime gone, will mail, or the suitor operator for telling me a tale. Ah, too much monkey business, too much monkey business, too much monkey business for me to be involved. Been to Yokohama, been fighting in the war, army bunk, army child, army clothes, army car. Ah, too much monkey business, too much monkey business, too much monkey business for me to be involved. Working in the filling station, too many tasks, wipe the windows, check the tires, check the oil, a dollar gas. Ha! Too much monkey business, too much monkey business. I don't want your botheration, get away, leave me be. Too much monkey business for me.
I worked for Enron International. I was a senior administrative assistant to work for a vice president of development engineering.
J'avais un travail d'assistant administratif pour Enron International.
Actually, it would have been five years here at Enron.
En fait, ça ferait 5 ans ici à Enron.
Pour quel salaire?
The salary range for my level at that time with bonus averaged about 50,000.
Mon salaire était d'environ 50 000 dollars, prime incluse.
Ça fait 350 000 francs par an.
And the money was good. Benefits were excellent.
On était bien payés, on avait beaucoup d'avantages sociaux.
C'est-à-dire?
Well, we had life insurance, we had disability, we had vision, we had dental.
On avait le dentiste, les lunettes, on avait aussi l'handicap et on avait également une très bonne assurance vie.
Enron paid that.
Enron payait tout ça, garantissait déjà beaucoup d'avantages sociaux.
Il y avait des vêtements, vous aviez des t-shirts, des objets qui venaient de chez Enron.
I had a lot of Enron t-shirts. We were proud to be Enron.
Enron. Oui, j'avais plein de t-shirts Enron. On était très fiers d'être Enron.
I loved Enron. I enjoyed working for Enron. Just to, yeah.
J'adorais Enron. J'adorais travailler à Enron.
After a turbulent year, America's looking for honest answers about the high-tech industry.
Silicon Summit 3 is sponsored in part by Lexus.
Je crois en Dieu et je crois dans le marché. Ainsi parlait Kenneth Lay, le président d'Enron, et il parlait toujours de Dieu, ou plutôt de son fils, Jésus-Christ, en précisant, il voulait que les gens puissent choisir. C'était sa façon d'utiliser la parole de Jésus-Christ pour justifier la consommation d'énergie, puisque Enron était courtier en énergie. Et puis, ce sens du divin, cette prédestination de Kinsley, eh bien, s'est confirmée et sa rémunération a atteint 141,6 millions de dollars. C'est un petit calcul. En l'an 2000, c'est-à-dire une hausse de 184% par rapport à l'année précédente. Nous sommes du côté des anges, dit-il, dans toutes les affaires que nous avons conduites, nous sommes les bons gars. Ça, c'était plutôt Jeff Skilling qui disait ça, l'ancien directeur général d'Enron au magazine Business Week, et maintenant Jeffrey Skilling est sur la sellette. Mais bon, ça, c'est le méchant de comédie, c'est le méchant de feuilleton. L'affaire est beaucoup plus grave que ça. Et vous avez entendu Debbie Perrotta, cette employée d'Enron, elle était assistante de direction, elle a été renvoyée le fameux lundi noir, le 3 décembre, comme du bétail, dit-elle, avec 4500 de ses collègues. On écoute Debbie.
Back in business.
En l'espace d'une heure, vous avez été foutu dehors et vous avez tout perdu.
Well, we knew we lost our money back in November. But then we lost our job and the security of a paycheck.
On savait déjà depuis le mois de novembre que nos fonds de retraite ne valaient plus rien. Mais ce jour-là, on a perdu notre travail et on a perdu la sécurité d'un chèque à la fin du mois.
I lost everything. If I lost it due to my own fault, it's one thing. But to lose it because they cheated, they lied, they were doing things illegally to their benefit.
Oui, moi j'ai vraiment tout perdu, et tout perdre quand c'est de votre propre faute, c'est une chose, mais tout perdre quand c'est les autres qui vous ont trompé, qui vous ont volé, c'est autre chose.
Vous l'avez dit dans votre quartier ici, pour vos voisins, les gens de votre quartier ici.
Well, they all knew. I was proud to work for Enron. What they did to us, it hurt us tremendously, because I myself gave more than 100% to the company.
Oui, oui, je le disais autour de moi, j'étais tellement fière de travailler pour Enron que tout le monde le savait. Et pourquoi est-ce qu'ils nous ont fait autant de mal? C'est parce que justement, moi, je me suis donnée à 100% pour cette compagnie.
Enron was noted to hire the best of the best and pay very well.
Enron était connu pour n'employer que les meilleurs des meilleurs et très bien les payer.
A-I-C-E. A, respect. E, integrity, I, excellence, si, communication. Ce que je vous dis là, respect, intégrité, excellence, communication, c'était la devise d'Enron, qui par ailleurs disposait d'un code d'éthique. C'était un petit livre comme ça qui était distribué à tous les collaborateurs d'Enron. Respect, intégrité, excellence, communication et l'éthique. Voilà. On continue de l'intérieur, du vécu de cette affaire extraordinaire. Debbie.
I like to see there be some indictments where they go to jail and freeze their assets.
Je voudrais qu'on les poursuive et qu'on les envoie en prison, et surtout je voudrais que l'on gèle tous leurs avoirs.
We need to pay back something to people who lost their money. We have elderly people who have retirement savings, and because Enron was doing so well.
Oui, il faut qu'on récupère cet argent parce qu'il faut qu'on le redistribue. Il y a par exemple des très vieilles personnes qui ont perdu toutes leurs économies pour leur retraite.
On nous dit qu'il y a des distributions de nourriture. Il y a vraiment des problèmes de nourriture des anciens d'Enron qui n'ont pas assez à manger.
Yes, there is food bank. We have a lot of families, a lot of people were not making a lot of money.
Oui, parce qu'il y avait beaucoup d'employés qui ne faisaient pas tant d'argent que ça, et ces gens-là ont une famille.
And some people had two family members who were let go from Enron.
Et certaines familles avaient les deux parents qui travaillaient à Enron.
And there's some food stores here who are giving coupons for food.
Et il y a aussi des magasins qui vont donner des coupons de réduction pour la nourriture.
They're trying to get us over the little bit of the hump until we can find work.
Ils essayent de nous donner le tout petit peu qui nous permettra de rester à flot jusqu'à ce que l'on retrouve du travail.
One couple of jobs I lost because of what I'm fighting for.
Dans deux emplois que j'aurais pu avoir, eh ben, je les ai perdus à cause de ce que je suis en train de faire maintenant pour me battre contre Enron.
Les boulots vous ont été refusés.
Some companies don't really particularly like that to be outspoken.
Il y a certaines compagnies qui n'aiment pas tellement les gens qui parlent un peu trop fort.
But I am now looking for to continue this fight and to make some changes. So I'm looking in that aspect for a job that I can pursue this full time.
Oui, alors je cherchais des choses dans mon ancienne profession, mais maintenant j'essaye aussi de trouver un travail qui soit en rapport avec mon combat, parce que j'ai envie de pouvoir m'y consacrer à plein temps.
Et vous pourriez rentrer dans un syndicat, par exemple?
Yes, I could. We have to make a lot of changes in the corporate rules and regulations, corporate laws.
Oui, oui, je pourrais travailler dans un syndicat. Il faut surtout que l'on change les choses. Il y a beaucoup de changements à faire, notamment dans la réglementation des grandes compagnies.
All over America, people are discovering a package of important free information concerning hearing loss. Call the toll-free number right now, and you'll receive a valuable video and informative booklet that show you how hearing aids may help you hear better.
I love America.
Call the toll-free number for your free video information kit today.
Help make a difference. One penny, one nickel, one dime. That's all it takes, folks.
In December of 2000, I had about $40,000.
En décembre 2000, par exemple, j'avais à peu près $40,000.
Right now, don't have anything.
Ben maintenant, j'ai plus rien.
Dans cette affaire Enron, il y a d'abord quand même une escroquerie, une injustice.
Life is not fair.
Non, mais la vie, c'est pas juste.
Life is not fair.
Et là, qu'est-ce que vous venez chercher? Là, vous venez chercher de la nourriture?
You know, they help you with food, they give you food, and they also help you with the clothing for the kids.
Ils nous ont donné de la nourriture, et puis ils nous aident, ils nous donnent aussi des habits pour les enfants.
Parce que vraiment, vous n'avez plus à rien à manger.
Mm-hmm. Mm-hmm. Yeah, oui. So help. Anything to help.
Oui, n'importe quoi, même un tout petit peu, ça peut nous aider.
We took everything.
On nous a tout pris.
It's Enron's fault.
C'est la faute de Enron.
Enron did it to us. They need to pay.
Enron nous a fait ça, maintenant ils doivent payer.
You can because you think you can.
Vous pouvez le faire parce que vous savez et vous pensez que vous pouvez le faire.
Powerful.
Ça c'est le pouvoir. Être productif.
Powerful. Unstoppable.
On ne peut pas nous arrêter.
And that's what it took. To build this country.
Et c'est ce qu'il nous a fallu pour construire ce pays.
La texasisation des États-Unis. On est au Texas. La texasisation des États-Unis, ben, c'est tout simple, puisque le président Bush incarne le Texas. Eh bien, le Texas est devenu un peu le modèle des États-Unis. On va aller dans un quartier de Houston qui ressemble pas du tout à la carte postale, ce downtown avec ses buildings majestueux, impressionnants, intimidants, de marbre, de granit, de glace. Le Texas est l'État qui a le taux le plus faible d'enfants assurés, près d'un million d'enfants dans cet état, l'état de George W. Bush, dont il était gouverneur, près d'un million d'enfants sans aucune assurance médicale. Voilà, quelques indications, ce sont des chiffres, il faut toujours, comme on dit, il est de bon ton de dire relativiser les chiffres, enfin ça donne quand même une indication. Si ça suffit pas, eh bien nous arrivons ce matin-là chez Kit Kerr pour tâcher de rencontrer ceux d'Enron, les gens d'Enron, certains d'Enron qui viennent là, jusque-là, chercher les secours.
Eleanor, welcome, welcome. Hey, John, welcome.
C'était Au secours d'Enron, un reportage de Daniel Mermet, Guy Vanctil et Cécile Besson. Merci à Orlando Puig et Debbie Perrotta. En attendant le retour de Daniel Mermet, vous pouvez lire « Ces truands qui nous gouvernent » de Jim Hightower aux éditions du Croquant. Plus d'informations à votre disposition sur le site de la base si j'y suis en allant sur franceinter.com. À la technique ce soir, Michel Thomas et Antoine Viossa. Réalisation Antoine Chao, assisté de Yann Chouquet et Pascal Pascariello. Chef du répondeur, Christophe Imbert.